Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et cette question que nous allons poser à nos invités dans quelques instants, faut-il retirer le vaccin AstraZeneca définitivement de la liste des vaccins pour lutter contre le Covid-19? Nous en débattons donc. Mais d'abord, notre invité sur les 10 ans du conflit en Syrie.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Mikhail Gamandi-Egorov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste politique russe à l'agence de presse Observatoire Continental. Vous êtes en ligne de Casablanca au Maroc. Voici 10 ans que la Russie est plongée dans le conflit dont le bilan humain est difficile à établir. D'ailleurs, en 2014, faute d'avoir de sources fiables, l'ONU a renoncé à le faire. Mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni et présenté comme proche de l'opposition, avance le chiffre de plus de 387 000 morts en 10 ans, dont 117 000 civils. Avez-vous des chiffres contraires ?
Ben écoutez, justement, il y a différentes sources. On sait que l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il est quand même proche de ce qu'on appelle l'opposition et plus généralement, il est proche des milieux pro-occidentaux. Donc je ne peux pas dire que tous les chiffres qu'ils avancent sont corrects. Mais c'est vrai que ce qui est sûr et certain, c'est que la guerre en Syrie a causé beaucoup de morts, aussi bien du côté de l'armée gouvernementale syrienne que du côté des civils qui ont été touchés, notamment dû à la propagation massive des groupes terroristes, dont Daesh, présents sur le territoire syrien et qui provenaient de plus d'une centaine de pays, même si à partir de 2015, ça a beaucoup évolué. C'est un très grand nombre de terroristes ont été éliminés, on parle de plusieurs dizaines de milliers de membres. La Syrie a été martyrisée depuis, mais pas seulement dû à l'implantation des groupes terroristes, mais aussi à cause de l'interférence de nombre d'États qui voulaient justement déstabiliser le pouvoir syrien et faire tomber le gouvernement syrien. Et
voilà donc que la Russie décide d'intervenir en fin septembre 2015. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, malgré le retrait russe, de mission accomplie ?
Je pense que globalement oui, je pense que la mission a été accomplie, ne serait-ce que pour la raison que Daesh a été très globalement écrasé. Donc les éléments de Daesh qui représentaient le principal défi, pas seulement pour la Syrie, mais aussi pour beaucoup de pays de la région, et même au-delà, ils ont été écrasés à plus de 95%. Il y a quelques cellules dormantes qui restent encore dans le désert syrien. D'ailleurs, pour l'anecdote entre guillemets proche, ils se trouvent justement dans une zone où se trouve une base américaine illégale, la base d'Al-Tanf. Mais globalement, effectivement, la mission a été accomplie, même s'il y a encore du travail à faire.
Mais oui. Le pouvoir syrien n'a toujours pas le contrôle sur l'ensemble du pays.
Ben écoutez, il contrôle la grande partie du pays, dans le sens que, aussi bien du point de vue de la superficie que des zones où il y a justement beaucoup des zones fortement habitées. Donc à ce niveau-là, la mission a été accomplie. Il reste effectivement une partie de la province d'Idlib qui est toujours au groupe de groupes armés et dont beaucoup sont liés à Al-Qaïda. Donc ça, effectivement, ça reste encore un problème qui doit être réglé. Il y a aussi des zones dans le nord-est où se trouvent justement des troupes américaines et certaines troupes occidentales qui sont là-bas de façon illégale parce qu'ils n'ont pas été invités par le gouvernement officiel syrien. Ils n'ont même pas, d'ailleurs, d'autre part, ils n'ont pas le mandat de l'ONU, en collaboration avec certains groupes kurdes. Donc oui, ça aussi, ce sont des défis qui existent encore à régler pour le pouvoir syrien et ses alliés. Mais dans tous les cas, le travail se poursuit. Ce qui est sûr et certain, c'est que la situation d'aujourd'hui en Syrie n'a rien à voir avec celle d'avant septembre 2015 où Daesh menaçait même de prendre la capitale Damas.
Et justement, où sont désormais ces terroristes qui ont été chassés ou qui sont partis de Syrie ?
Ben c'est une question tout à fait légitime. Beaucoup d'entre eux ont été éliminés, donc ils n'existent plus. Certains d'entre eux se sont éparpillés à différents endroits de la région. Certains sont repartis dans leur pays d'origine, puisqu'il ne faut pas oublier que beaucoup de ces terroristes venaient pas seulement des pays du monde arabe, mais ils venaient aussi des pays qui n'appartiennent pas à la région. Beaucoup d'entre eux avaient d'ailleurs des passeports de pays occidentaux. Certains d'entre eux ont pu rentrer chez eux. Ça aussi, ça représente un défi. Mais là, justement, je pense que pour ceux qui ont pu regagner leur pays d'origine, je pense que c'est aux pays concernés de gérer leur présence et de les surveiller. Après, est-ce que cela se fait de façon efficace ? Ça, c'est une grande question.
Où en est-on aujourd'hui avec la reconstruction de la Syrie ?
Ben, c'est un processus qui est en train de suivre son cours. C'est une des priorités aujourd'hui du gouvernement syrien et de ses alliés. D'ailleurs, cette question a été abordée lors des récentes discussions à Sotchi dans le cadre de la plateforme d'Astana pour le règlement syrien. c'est sûr que c'est un problème qui doit être réglé. Après, il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui retardent le plein lancement de ce processus, notamment les sanctions de pays occidentaux qui visent la Syrie, et ça nuit également au processus de reconstruction.
Est-ce que vous pensez que les Occidentaux sont dans une posture aujourd'hui de financer la reconstruction, alors que selon eux, M. Assad est le problème et la cause de cette guerre ?
Je pense que le problème vient justement de l'interférence de ces États dans la problématique syrienne. De deux, je ne suis pas certain que le pouvoir syrien soit fortement intéressé à ce que les pays qui ont contribué justement à propager le chaos dans ce pays puissent participer d'une façon ou d'une autre à la reconstruction. Le président syrien a été assez ferme sur ce propos. Il avait dit à plusieurs reprises qu'en termes de reconstruction, les pays qui seront privilégiés pour justement participer à ce processus, ce seront les pays alliés, les pays amis, parmi lesquels, comme je l'ai déjà dit, il y a la Russie, l'Iran, la Chine, peut-être certains autres pays. On peut aussi parler de la diaspora syrienne qui peut aussi y contribuer.
Et sur quels aspects se concentre aujourd'hui la coopération entre Damas et Moscou ?
Puis il y a bien sûr la coopération militaire qui est présente. Il y a des conseillers militaires russes qui se trouvent sur place, des représentants des forces armées russes, notamment des représentants des forces aériennes, des forces aérospatiales russes. Il y a aussi la coopération économique. Il y a des entreprises russes qui travaillent avec la Syrie.
Mikhaïl Gamandi et Gorov, merci beaucoup.
Merci à vous.
Analyste politique russe à l'agence de presse Observatoire Continental en ligne de Casablanca au Maroc.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h15 à Paris et à Yaoundé, 17h15 à Dakar. Merci de nous rejoindre pour cette autre édition du Grand Rendez-vous. Nous parlons ce soir de l'avenir de AstraZeneca, ce vaccin qui fait l'objet de polémiques depuis la semaine dernière. Et nous avons trois invités en ligne. Docteur Patrick Pelou, bonsoir. Allô, docteur Pelou, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Bonsoir.
Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France. Vous êtes donc en ligne de Paris. Et en ligne de Yaoundé au Cameroun, professeur Yap Boum. Bonjour, professeur. Allô, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Bonsoir.
Bonsoir, professeur Yap Boum, épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières. Vous êtes donc à Yaoundé et nous avons également le plaisir d'accueillir en ligne de Dakar, et ce sera dans quelques instants, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. Il est directeur de la prévention et spécialiste en santé publique, mais également expert en vaccinologie pratique. Je vais commencer avec vous, le docteur Pelou. Finalement, la France a donc décidé, elle aussi, juste quelques heures après l'Allemagne, de suspendre la vaccination de AstraZeneca. Quelle réaction ?
C'est dramatique. Hein, c'est dramatique pour la France. Premièrement, parce que nous n'avons à disposition pour vacciner le peuple français quasiment que de l'AstraZeneca. Le laboratoire Pfizer ne livrant plus la France et ayant déclaré récemment qu'il ne pouvait plus livrer les quantités qui avaient été préemptées, en quelque sorte, c'est-à-dire qui avaient été précommandées, premièrement. Deuxièmement, c'est dramatique parce que tous les centres de vaccination s'arrêtent, ce qui veut dire que, comme la France est touchée de plein fouet par les variants de la Covid-19, eh bien les variants vont pouvoir se développer et se répandre dans le pays. Comme vous ajoutez à ça que nous avons une saturation dans les hôpitaux qui est manifeste, comme en Ile-de-France ou dans le sud de la France ou le nord de la France, eh bien vous avez une situation de crise sanitaire absolument majeure.
Donc cette décision tombe au plus mauvais moment. Vous le dites, la situation est difficile en Île-de-France où certains malades ont dû être transmis vers d'autres centres de santé. Mais vous savez aussi, docteur Pelou, que ce n'est pas de gaieté de cœur que la France a pris cette décision, puisque jusqu'à la semaine dernière, le ministre de la Santé tentait de rassurer par rapport à AstraZeneca. Et si la décision était annoncée aujourd'hui, c'est forcément qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement.
On ne sait pas, parce que la décision est partie de l'Allemagne qui a décidé de suspendre l'AstraZeneca à cause des cas de quelques centaines de cas par rapport aux millions de personnes qui ont été vaccinées. sans qu'on sache vraiment si ces risques, notamment d'embolie pulmonaire et thromboembolique, sont dus au vaccin. On n'en a aucune preuve. Ce qui fait que là, on est dans une situation absolument... Enfin, c'est fou, quoi, parce que si vous voulez, prendre un médicament, c'est toujours un risque. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on fait en médecine, c'est qu'on fait le bénéfice-risque. Et on étudie toujours ce bénéfice-risque. Et là, en fait, d'arrêter la vaccination, je pense qu'on met en danger des millions de personnes par rapport à un risque thromboembolique. Et si on fait de la bonne prévention, on peut l'éviter, puisque nous avons des médicaments pour soigner les maladies thromboemboliques.
Oui. Merci. Donc, on comprend en clair pour vous, docteur Pelou, que le ministre de la Santé a pris une mauvaise décision en annonçant la suspension de AstraZeneca.
Écoutez, je n'ai peut-être pas tous les éléments qu'il a pour juger de la situation, mais avec les éléments qu'on a et qui sont dévoilés par la presse à l'heure actuelle, je pense que c'est une décision qui a été qui est peut-être exagérée. Alors maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Mais vous savez, le mal est fait, parce que en France, vous avez des gens qui sont des anti-vaccins, qui vont profiter de ça pour dire qu'ils avaient raison, qu'il ne faut pas se vacciner. Et puis derrière ça, vous avez une défiance et la population qui va se dire on ne se vaccine pas. Donc du coup, merci. On va avoir une surmortalité avec le coronavirus. Voilà.
Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, merci de nous rejoindre. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Vous êtes donc en ligne de Dakar et le Sénégal a commencé depuis bientôt ces deux semaines déjà la campagne de vaccination. Vous avez utilisé notamment le vaccin chinois Sinopharm.
Oui, bonsoir d'abord à tous vos auditeurs. Bonjour à tous vos auditeurs également. Je vous remercie de m'avoir appelé et que nous avons commencé pratiquement, on peut dire, depuis trois semaines, si vous voulez. Le vaccin Sinopharm. Donc, nous entamons à partir de demain. Ceux qui avaient pris les premiers à prendre les premières doses de Sinopharm vont entamer demain leur deuxième dose, leur deuxième et dernière dose, tandis que AstraZeneca a démarré à peine il y a moins d'une semaine, hein, pour l'essentiel du territoire national, depuis 3 ou 4 jours. Donc, maximum depuis 5 jours qu'on a commencé à vacciner contre AstraZeneca.
Avec AstraZeneca.
Et Sinopharm.
Et justement, oui. Quelle va être l'attitude des autorités sénégalaises face à cette polémique avec la France? La France a fait le 9e pays qui décide de suspendre l'administration de ce vaccin. Quelle sera la réaction des autorités sénégalaises?
Les autorités sénégalaises, je ne peux pas pour l'instant dire quelle sera la réaction, mais en tant que participant, en tout cas ayant parfois un mot à dire par rapport à cette réflexion, je sais que l'arrêt d'une vaccination suppose toujours un certain nombre d'arguments scientifiques, n'est-ce pas, avérés, avec des liens de cause à effet. N'est-ce pas sur ça? Pour l'instant, nous avons démarré et nous avons des éléments de surveillance factuelle pour voir un peu les effets. Et c'est comme ça que ça se passe dans les procédures classiques. À chaque fois, dans les vaccins, c'est comme ça qu'on procède. On vaccine, on fait la surveillance, on regarde. S'il y a un incident, on essaye de l'investiguer, d'essayer de le relier à quelque chose. Mais maintenant que, bien sûr, il ne faut pas également s'emmurer, être isolé par rapport à ce qui se passe autour dans le monde entier.
Merci.
Nous estimons que c'est un vaccin qui a été largement utilisé dans le monde. Peut-être qu'il y a des effets qui ont été notés, mais que ces effets, pour l'instant,
ne sont pas encore observés au Sénégal et ne justifient pas une éventuelle décision de suspension. Professeur Yapoum.
Absolument, nous sommes...
Merci, docteur Ndiaye. On va évidemment revenir à vous tout à l'heure. Professeur Yaboum, à Yaoundé, au Cameroun, quelle est la situation concernant ce vaccin et votre avis sur cette décision prise notamment au niveau européen de suspendre l'injection de AstraZeneca?
Pour ce qui est du Cameroun, il y a des doses de vaccin d'AstraZeneca, je crois près de 2 millions qui sont prévues pour arriver au Cameroun. Maintenant, le ministre de la Santé a communiqué en disant que l'application sera bien sûr conditionnée par les informations scientifiques qui seraient mises en avant. Maintenant, effectivement, je pense que pour ce qui est de l'Europe, et je pense que le docteur a bien précisé, c'est dommage. Docteur Pelou, merci. C'est dommage parce que ça fait un outil majeur en moins. Et puis finalement, de se dire que quel que soit le médicament, il y a toujours des risques par rapport aux bénéfices qui doivent être évalués.
Maintenant, donc vous jugez que, comme le docteur Pelou, vous pensez que c'est prématuré, c'est trop tôt de décider de suspendre ce vaccin alors qu'on n'a pas un plan B, si je peux le dire ainsi?
Je ne dirais pas simplement parce qu'on n'a pas un plan B, mais parce qu'on met sur la balance les bénéfices et les risques. Je suppose que c'est le calcul qu'ils ont fait. Malheureusement ou heureusement, la gestion d'une épidémie, elle est avant tout politique, économique et enfin sanitaire. Donc les arguments qui poussent le politique à prendre la décision ne sont pas forcément à la portée des épidémiaux et des praticiens que nous sommes. Mais si on va sur le point de vue simple de l'épidémiologie, on regarde la proportion de personnes qui pourraient ou qui ont eu cet événement, et on regarde la proportion des personnes qui pourraient être protégées des formes sévères. Et on regarde maintenant pour ce qui est de l'Afrique. Déjà, c'est un souci qu'il n'y ait pas eu d'essais cliniques suffisamment sur les populations africaines pour savoir quelle est l'efficacité du vaccin et dans les effets secondaires. Mais deuxièmement, ceux qui l'ont, à mon avis, ceux qui ont commencé, devraient justement regarder davantage pour prendre des décisions qui soient basées sur leur contexte et leur environnement, comme l'a mentionné mon collègue du Sénégal.
Merci. Docteur Pelou, qu'est-ce qui a finalement, selon vous, peut-être poussé la France à se raviser? Est-ce que c'est la position de son allié allemand qui a décidé de suspendre le vaccin, ou c'est peut-être l'information de la suspension du vaccin par les pompiers du Bush, du Rhône?
Non, je pense que ce qui a conditionné cet élan, c'est la position de l'Allemagne. Car nous avons un président de la République qui fort justement veut toujours mettre en avant l'Europe, et donc je pense qu'il s'est dit on va faire une décision politique européenne par rapport à ce vaccin, premièrement, et deuxièmement, je crois que l'idée selon laquelle il va falloir relancer la vaccination, ou dans quelques jours dit finalement on va remettre l'AstraZeneca, etc., ça ne marchera pas. Vous voyez, il y a une vraie défiance par rapport au vaccin.
Et ça, et que vont devenir les malades ou bien les personnes qui ont déjà pris la première dose? Est-ce qu'il y a une conséquence pour ces personnes?
Bien sûr que ça a des conséquences. Vous ne vous rendez pas compte. Imaginez, ceux qui ont déjà eu la première dose, là, on leur dit vous n'allez plus être dosé, puis ça se trouve... Non, mais c'est dramatique en termes de santé publique pour la population française, et surtout, ça va relancer l'épidémie. N'oubliez pas ça, c'est que notre seule arme contre cette épidémie, c'est la vaccination massive, comme le font très bien des organisations non gouvernementales comme MSF, ou des pays, si on prend des pays comme le Maroc, où ils ont fait une grande vaccination. Mais le problème qu'il y a là, c'est que tous les pays, puisque l'information circule, vont savoir qu'il y a une suspension de l'AstraZeneca. C'est une véritable défiance par rapport à la science et par rapport aux problèmes de santé publique. Et je ne sais pas si les gouvernants ont pris toute la mesure de ça. Alors je sais bien qu'ils sont prêts en France depuis l'affaire du sang contaminé dans les années 80. Le politique a très très peur et donc met toujours en avant le principe de précaution. Mais si vous voulez, si vous raisonnez la médecine qu'avec des principes de précaution, vous ne soignez plus sincèrement. Parce que dès que je fais quelque chose de médecine, il y a un risque. Et si à chaque fois je dis qu'il y a un risque, donc je ne le fais pas, vous ne soignez plus les gens.
Merci beaucoup. Merci, docteur Pelou. On va marquer une pause et puis on va se retrouver tout à l'heure pour continuer à débattre de ces risques du vaccin AstraZeneca qui alimente la polémique depuis la semaine dernière.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quel avenir pour le vaccin AstraZeneca? Nous allons en débattre encore avec nos invités. Docteur Eladj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, spécialiste en santé publique, expert en vaccinologie, pratique à Dakar au Sénégal. Professeur Yap Boum, épidémiologiste et représentant d'Epicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins Sans Frontières. Il est en ligne de Yaoundé au Cameroun et à Paris. Avec nous ici, docteur Patrick Pelou, président de l'association l'Association des médecins urgentistes de France, AMUF. Professeur Yaboum, quand une personne a reçu la première dose de AstraZeneca, est-ce qu'il pourrait ou elle pourrait recevoir la seconde dose d'un autre vaccin sans risque, sans qu'il y ait des risques?
C'est très compliqué à dire, hein, parce que les études n'ont pas été faites dans ce sens-là. Donc maintenant que les pays européens vont faire face à cette situation, ils vont suivre les personnes et donc ils vont produire de nouvelles preuves, de nouvelles évidences qui vont nous permettre d'en savoir davantage. C'est une nouvelle maladie, c'est un nouveau combat et donc avec ces changements des 20 minutes, il y a forcément des implications qu'il faudra suivre et surtout documenter.
D'accord. Et vous, docteur Ndiaye, au Sénégal, si jamais finalement vous arrivez aussi à la conclusion qu'il faut suspendre AstraZeneca, est-ce que vous avez une solution de rechange pour que cette campagne de vaccination lancée il y a 3 semaines ne puisse pas en souffrir? Vous entendiez tout à l'heure votre collègue, le docteur Patrick Pelou, dire qu'il peut y avoir un risque de surmortalité.
Oui, il y a un risque certain de surmortalité parce que nous sommes actuellement, si vous voulez, toujours dans communément ce qu'on appelle une seconde vague, où donc des cas de décès surtout sont notés, surtout une mortalité assez élevée. Et si par hasard, ou bien en tout cas si par malheur, ce vaccin serait suspendu, ça serait encore une relance du processus parce qu'il faut savoir que nous travaillons depuis le mois de septembre sur un plan d'action qui donc est en train de voir où est-ce qu'on peut avoir un certain nombre de doses de vaccins en sachant qu'on n'est pas fixé sur un seul vaccin, en sachant qu'il y a une tension mondiale sur les vaccins. Les pays s'apprêtent à recevoir quelque chose comme 2 à 3 types de vaccins pour pouvoir couvrir en tout cas les premières estimations. Si un vaccin est hors de course déjà, vous voyez, les taux se resserrent encore autour de ces cibles prioritaires qu'on veut couvrir et il y aura forcément des implications qui feront qu'encore une fois, les plans
Mais est-ce que compte tenu de la tendance, est-ce que compte tenu, docteur Ndiaye, de la tendance maintenant où de plus en plus de pays suspendent l'injection de AstraZeneca, vous préparez en conséquence? Est-ce que vous avez les moyens déjà de vous préparer en conséquence?
Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, on ne l'a pas encore envisagé. C'est quelque chose avec laquelle peut-être il faudra compter, mais pour l'instant, parce que ces pays aussi ont suspendu, il faut savoir, ont suspendu pour permettre aux investigations d'avancer. Si heureusement, il se trouve qu'il n'en est rien et qu'il fallait continuer, vous voyez qu'actuellement, les gens qui étaient en train de vacciner n'auront pas grand-chose à perdre. Par contre, s'ils disent d'arrêter, là, ça pose problème. Mais merci. En tout cas, je pense que pour l'instant, ce qui est fait, c'est pour permettre aux investigations d'aller un peu plus vite et de permettre d'avoir des conclusions factuelles sur lesquelles on pourra continuer ou arrêter la vaccination.
Merci, docteur Ndiaye. Docteur Pelou, alors vous avez dit, hein, et vous continuez de le dire, que la décision, peut-être le gouvernement français a surestimé le risque. La décision pour vous est prématurée et elle aura des conséquences dramatiques. Mais il faut aussi souligner quand même, docteur Pelou, que il y avait déjà des signalements concernant les forts effets secondaires de ce vaccin qui avaient été signalés aussi même par le personnel médical vacciné. Donc,
non, ils avaient,
certains, semble-t-il, étaient sujets à des syndromes grippaux un peu marqués.
Mais oui, mais ça, madame, c'est une réaction physiologique tout à fait normale quand vous injectez des vaccins. Moi-même, il y a quelques années, on m'a injecté le vaccin anti-grippe et j'ai fait une réaction avec de la fièvre. C'est pas grave, les gens sont pas morts, c'est une réaction normale du début de la réaction immunitaire. Bon voilà, maintenant on est dans un monde où il faut que des choses parfaites, c'est ça qui est complètement fou. Et le bénéfice risque, je vous dis, là la France a dépassé les 90 000 morts. Bon, on pensait avec les mesures ce qu'on appelle les mesures barrières, avec le port du masque qui a été accepté par les Français et généralisé, le gel hydroalcoolique, etc.
Le couvre-feu aussi à 18h.
Le couvre-feu, voilà, on s'est dit, ça allait calmer le truc. Et si on vaccinait en même temps, on avait gagné la partie. Là, c'est un véritable drame. C'est un drame.
Et là aussi, ça aura des conséquences sur l'objectif que s'était fixé le gouvernement en termes de vaccins.
Oui. Oh là là.
Alors même qu'on parlait déjà de retard dans la livraison de ces vaccins AstraZeneca. Donc, peut-être que de toute façon, le gouvernement ne pouvait pas atteindre son objectif.
Non, je pense que non, parce qu'il y avait des millions de doses qui étaient censées arriver. C'est vrai, vous avez raison, la critique, la critique était vraie. Sur le fait qu'on s'y est mal pris pour vacciner. Moi, j'avais recommandé d'ailleurs que ça soit un militaire, soit un médecin spécialiste des organisations non gouvernementales qui gèrent la vaccination et qui avait l'habitude de gérer des vaccinations de masse. Bon, voilà, on s'y est pris comme des andouilles, mais bon, ça pouvait passer. Le truc, c'est que les vaccins arrivaient et on pouvait espérer, même en s'y prenant comme des imbéciles, que les gens soient vaccinés. Et là, on a tout arrêté.
Et en même temps, même lorsqu'il y avait des vaccins, il y a toute une polémique. Il y a eu toute une polémique la semaine dernière entre les pharmaciens et médecins sur qui a la priorité.
C'est des affaires d'argent. Parce que les médecins voulaient continuer à vacciner parce qu'ils gagnaient des sous. Et les pharmaciens aussi, c'est une affaire d'argent. D'accord ? Parce que même pendant la crise, les gens, ils veulent s'enrichir. Hein ? Donc là, évidemment, c'était une querelle, mais mettons ça de côté. Le drame qu'il y a là, c'est qu'on a dépassé les 90 000 morts, et là, l'épidémie qui redémarre va pouvoir redémarrer, mais de manière fulminante, puisqu'on ne vaccine plus. Vous voyez ? C'est ça. Si vous voulez, le truc, c'est qu'il n'y a même pas la polémique pour savoir qui vaccine. On n'en est plus là. Il n'y a plus de vaccins, et on a une défiance totale sur les vaccins, et on n'a plus de vaccins en France. C'est une puissance du monde. Hein?
Il faut souligner quand même, docteur Pelou, qu'il s'agit d'une suspension. Et le docteur Ndia disait tout à l'heure qu'il y a des investigations qui sont en train d'être faites. Peut-être qu'on aboutira à des conclusions plus favorables qui vont indiquer qu'il y a plus de peur que de mal et reprendre le processus de vaccination.
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est dramatique parce que, si vous voulez, tous les opposants à la vaccination et ceux qui critiquaient les vaccins sont ce soir dans la victoire. Comment voulez-vous, d'un coup, avec tout ce qu'on est en train de dire là, comment voulez-vous que les gens acceptent de se faire vacciner avec l'AstraZeneca ? C'est
merci. Professeur Yapboum, vous aussi, vous craignez que, finalement, cette décision, je ne vais pas dire en cascade, mais quand même, on parle d'une dizaine de pays qui ont déjà interdit, d'autres qui ont ouvert des enquêtes. Est-ce que vous pensez que ça va porter un coup au processus de vaccination, peut-être pour vous au Cameroun, je vais dire au-delà même de AstraZeneca ?
Bah oui, et malheureusement, parce que on assiste à un suivisme important de pas mal de nos pays par rapport aux stratégies de beaucoup de pays font exactement ce que les Européens ont fait, bien que le contexte soit différent. Pour ce qui est de la vaccination, effectivement, les pays africains, chaque pays africain doit se poser la question, est-ce que la vaccination est le meilleur outil aujourd'hui en tenant compte du nombre de morts, en tenant compte du nombre de malades, par rapport à, par exemple, un investissement beaucoup plus important dans les structures de santé pour
prendre en charge les personnes qui arrivent. La vaccination n'est même pas la priorité pour un pays comme le Cameroun ?
Je pense un pays comme le Cameroun aujourd'hui, non. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'avoir dans chaque ville, dans chaque région, des structures sanitaires capables de prendre les personnes qui arrivent au moment où ils ont les problèmes pour les symptômes.
Parce qu'on a donc renforcer les structures sanitaires, les équipements.
Tout à fait. Parce que c'est ça qui va rester après la pandémie. En plus des vaccins, il faut dire quand même, qu'on est sur une immunité qui peut durer 6 mois, 9 mois. Et qu'est-ce qu'on ferait après? Au Cameroun, par exemple, on a publié dernièrement la présence du variant sud-africain. Il y a peut-être aussi le variant anglais. Donc, on va utiliser quel vaccin ?
Brésilien aussi ?
Brésilien aussi, peut-être. On ne sait pas, mais c'est des possibilités. Donc, avant de se lancer à fond sur la vaccination, il faut déjà savoir dans quel environnement nous sommes. Et je pense que chaque pays devrait le faire.
Merci.
Sinon, on se retrouve dans ce qu'il y a eu en Afrique du Sud, vous avez vu. Ils ont eu AstraZeneca, ils ont eu le variant sur lequel il n'y avait aucun effet, et ils ont été obligés de donner toutes leurs doses, ce qui offre des coûts énormes.
Merci beaucoup. Docteur Ndiaye, vous aussi au Sénégal, est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse décourager les autres personnes qui étaient peut-être prêtes à venir se faire vacciner, même si c'est un autre vaccin que AstraZeneca? Ils peuvent perdre la confiance en tous les vaccins. Est-ce qu'il y a ce risque?
Bien sûr que le risque est là, parce que depuis le début de cette pandémie ou bien de cette vaccination, il y a toujours des anti-vaccins qui commencent à monter en puissance. Ils avaient déjà baissé un peu la garde lorsque les vaccins ont commencé à produire quand même des effets, notamment dans certains pays. Mais une fois qu'il y a
cette polémique, ça leur prête le flanc.
Cette polémique, alors ça les booste un peu, c'est une bouée de sauvetage pour dire que voilà ce qu'on disait, etc. Dans tous les cas, moi je pense qu'il faut relativiser. C'est pas la première fois que les vaccins sont attaqués, etc. et que les choses reviennent à la normale. Moi je pense qu'il faut être optimiste. Et si vous rappelez en France, le vaccin hépatite B avec la sclérose en plaque, ou bien même les vaccins contre le rotavirus par rapport aux invaginations intestinales, etc. Bon, donc c'est des choses qui arrivent, mais néanmoins, il faut savoir quand même que c'est différent. Nous sommes dans un siècle où vraiment les anti-vaccins, surtout en ce moment par rapport à cette pandémie, il y a eu beaucoup de polémiques encore une fois. Si les pays suspendent, en tout cas, c'est par plus de précautions et de peur du voisinage ou bien de l'opinion publique que, par exemple, par rapport à des choses factuelles.
Merci
Moi,
beaucoup.
Je pense que c'est aussi simple que cela.
Docteur Pelou, il y a quand même l'OMS qui rassure. Il y a aussi AstraZeneca, le fabricant de AstraZeneca, le laboratoire anglo-suédois qui rassure. Est-ce que vous pensez que tout cela va peut-être contribuer à faire baisser les craintes au niveau de certaines personnes dans les pays où l'utilisation de AstraZeneca n'est pas encore suspendue? Docteur Pelou? Allô, docteur Pelou? Manifestement, il ne m'entend pas. Professeur Yab? Allô, professeur
oui,
Yab?
Je vous entends.
Oui, est-ce que vous pensez que malgré tout, avec les assurances de l'OMS la semaine dernière, qui avec aussi le fabricant tentait de rassurer de ce qu'il y a un bénéfice par rapport au risque, un bénéfice de santé par rapport au risque, est-ce que vous pensez que ces assurances vont suffire à ce que les pays où le vaccin n'est pas encore suspendu puissent trouver preneur?
J'espère qu'au-delà des assurances de l'OMS, j'espère que les résultats des pays qui sont en train d'utiliser le vaccin en Afrique permettront de rassurer ou d'infirmer, parce que je veux dire, il n'y a pas de parti pris, hein. Tout va dépendre de la proportion de ce qu'on trouve. Maintenant, on voit que le poids de l'OMS dans le choix des vaccins n'est pas le plus fort. Mais après, ça va être la pression dans les pays en fonction de l'épidémiologie, surtout du nombre de cas, nombre de morts et des solutions disponibles.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a retrouvé le docteur Pelou. Non, il n'est pas encore en ligne avec nous. Docteur Mamadou Ndiaye, vous m'entendez? Allô?
Oui, je vous entends.
Allô?
Allô, je vous entends.
Oui, docteur Mamadou
Ndiaye. Oui, je vous entends.
Voilà. Finalement, en deux mots, quelle peut être la solution aujourd'hui face à cette situation? Puisque vous dites qu'il faut continuer à vacciner, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être en termes de réajustement de la communication pour continuer à rassurer les populations? Et je vous propose de répondre à cette question juste après une courte pause que nous allons marquer.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quel avenir pour le vaccin anti-Covid AstraZeneca face à la polémique qui enfle autour de ce sérum? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Docteur Patrick Pelou, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Il est en ligne de Paris. Professeur Yap Boum, épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières. Il est à Yaoundé au Cameroun. Et enfin à Dakar, au Sénégal, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, spécialiste en santé publique et expert en vaccinologie pratique. Docteur Ndiaye, alors, je vous demandais tout à l'heure quel réajustement il faut faire en urgence et très rapidement pour attraper le coup et ne pas perdre la main sur la campagne de vaccination déjà lancée, par exemple, dans votre pays, le Sénégal, et plus globalement en Afrique, peut-être.
Je trouve que l'urgence actuellement, c'est que ces effets qui ont été découvert certaines personnes qui auraient fait des réactions ou des manifestations soi-disant très graves, que l'imputabilité de ces réactions puisse être rapidement prouvée pour permettre aux uns et aux autres d'avancer pour ne pas créer beaucoup de tort à la population mondiale ou bien, en tout cas, au vaccin en question. Il faudra que nous sommes arrivés à un niveau scientifique où on peut, en quelques jours ou en quelques semaines, prouver, en tout cas, faire un effet, la relation causale entre ce qui a été observé par rapport au vaccin et que pour qu'on puisse repartir. On ne peut pas rester dans une phase où on est en train d'étudier, etc., etc. Non, le monde est arrivé où on peut prouver assez rapidement, dans un délai raisonnable, comme quoi que le vaccin n'est pas responsable ou est responsable pour qu'on puisse avancer, parce que c'est une course contre la montre par rapport à cette pandémie.
En tout cas,
les pays qui ont suspendu, parce qu'il y a également un effet d'épée de Damoclès sur les autres pays.
D'accord. En tout cas, du côté de Zeneca, hein, le professeur Andrew Ipola a déclaré ce lundi, avant que l'Allemagne annonce tout de même la suspension de ce vaccin, qu'il y a des preuves très rassurantes qu'il n'y a pas d'augmentation du phénomène de caillots sanguins au Royaume-Uni, où la plupart des doses en Europe ont été administrées jusqu'à présent. Et je rappelle que donc il s'agit bien du vaccin anglo-suédois AstraZeneca. Voilà pour la position du fabricant. Docteur Pelou, on vous avait perdu, vous m'entendez ?
Oui, merci.
Voilà, soyez bon retour. Qu'est-ce qu'il faut faire du côté de la France, selon vous, pour que ce que vous craignez n'arrive pas, c'est-à-dire un désistement, une défection, peut-être même des usagers, même au-delà de AstraZeneca ? Une désaffection vis-à-vis de tous les vaccins, je veux dire.
Oui. Écoutez, moi, je crois que déjà, la partition est mauvaise dès le départ sur cette histoire de vaccin. Il faut sortir de l'organisation du capitalisme pour dire que ce vaccin, il est universel. Et ce vaccin ne doit pas être le jeu de chantage financier ou de chantage économique pour que tel ou tel laboratoire gagne encore plus de milliards.
Excusez-nous, docteur Pelou, vous êtes en train de dire que AstraZeneca serait victime de la concurrence ?
Tout est possible, parce que si vous voulez, il y aurait eu un sens par rapport à l'humanité, par rapport à tous les pays du monde, de dire que ce vaccin qui avait été découvert par un laboratoire, eh ben, il était pris par le savoir, et par exemple par l'OMS, par l'ONU, par une organisation mondiale, pour dire, voilà, ce vaccin appartient à tout le monde et peut être fabriqué dans tous les pays, parce que, si j'ai bien compris, c'est pas si compliqué que ça de fabriquer des vaccins à l'ARN messager.
Est-ce que vous pensez que cela serait lié à l'arrivée prochaine qu'on annonce de nouveaux vaccins ?
Mais vous savez, alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les laboratoires annoncent à chaque fois qu'ils vont avoir des vaccins pour faire monter leur cotation boursière et pour avoir des dividendes supplémentaires. Mais on n'a aucune certitude sur l'arrivée des nouveaux vaccins.
Merci. Professeur Yapboum, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, finalement, on n'arrive pas à ce que tout le monde craint, un abandon de tous les vaccins ? Est-ce qu'il faut maintenir AstraZeneca ou, finalement, se résoudre à le retirer de la liste des vaccins autorisés contre la COVID-19 ?
Je pense qu'il faut du courage et de la transparence. Hein. Je pense qu'il faut, à mon avis, hein, et cela n'engage que moi, les pays qui ont continué, qui continuent à l'utiliser, doivent suivre, dès qu'il y a des effets secondaires, de pouvoir les publier et surtout rappeler que c'est le patient qui décide à la fin. Docteur Pelou disait tout à l'heure, il y a des médicaments pour pouvoir gérer ces effets secondaires. On peut demander, proposer aux personnes âgées, parce que ce sont celles qui sont les plus à risque, de dire, okay, on a ce vaccin, le risque de pouvoir avoir un problème est de 1 sur 1000. Il y a cette autre possibilité. Qu'est-ce que vous choisissez ? De le retirer aussi, c'est d'enlever le choix aux populations, ce qui est aussi un autre problème éthique.
Allô, docteur professeur Yeboum, on l'a perdu. Je vais revenir peut-être à vous, docteur Ndiaye. Allô, docteur Ndiaye. Oui, docteur Ndiaye. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir ce vaccin sur la liste ou bien le retirer?
Moi, je pense qu'il faut maintenir ce vaccin sur la liste, encore une fois. Parce qu'encore une fois, les gens ont suspendu, c'est par mesure de prudence qu'ils ont suspendu en attendant. Et puis aussi, il y a des vaccins, il y a d'autres vaccins qui ont des effets également, des effets, etc. Donc, c'est un vaccin qui a été suspendu. Rien n'a encore été prouvé pour l'instant. Il faut continuer la vaccination parce que si aujourd'hui on suspend la vaccination, il y aura des gens qui vont s'infecter dans la période, au cours de cette période de suspension, qui malheureusement vont en mourir également. Et combien de personnes vont mourir si on devait arrêter ce vaccin pendant 3 semaines ou 1 mois, des personnes qui seront mortes d'une maladie évitable ou bien auraient évité une forme grave de COVID-19.
Merci.
Il faudra qu'on essaie d'évaluer également cette éventualité.
Merci, docteur Ndiaye. Professeur Boum, on vous a retrouvé. Vous concluez vos propos en 30 secondes, s'il vous plaît. Vous disiez qu'il faut maintenir, mais avec sous réserve.
Je pense qu'il faut maintenir sous réserve. Il faut avoir le courage d'être transparent sur les effets qu'on pourra voir ou pas. Et puis donner la possibilité aux personnes de choisir en connaissance de cause. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. De ne pas leur laisser de choix, ce n'est pas éthique non plus.
Merci. Alors, on termine avec vous, docteur Pelou. On annonce aussi, la Russie a signé des accords de production de Sputnik V avec l'Europe, notamment la France. C'est peut-être là que viendra le salut ? Peut-être aussi le vaccin chinois ?
Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas? Je rejoins totalement ce qu'a dit le professeur Ndiaye sur le fait qu'on a des médicaments pour soigner les effets secondaires. Et on va à la catastrophe si on arrête de vacciner. Et le virus, alors il va faire ce qu'il veut en termes d'écologie et d'épidémie. Ça va être une dramatique.
Mais docteur Pelou, j'ai posé la question sur le Sputnik parce qu'il existe depuis... l'Union européenne, peut-être pour des raisons géopolitiques, n'a pas envisagé cette piste-là. Est-ce que peut-être, étant dos au mur, l'urgence s'impose désormais de voir le vaccin russe ?
Bien sûr, vous avez totalement raison. Totalement raison. Il faut, d'un coup, toute solution doit être envisagée. Là il s'agit de la survie des espèces, de l'espèce humaine. C'est pas rien. Vous avez vu l'année dernière, quand il y a eu le début de l'épidémie, personne disait il va y avoir des variants et ça va durer encore plusieurs années. Personne. Et ça, maintenant, c'est une certitude. Ils mutent et il y a des variants, et des variants, notamment le variant anglais qui est plus virulent. On disait que non, mais en fait, il est plus virulent que le premier. C'est dramatique.
Donc, les vaccins, d'où qu'ils viennent,
faut les évaluer pour respecter l'évaluation pour... ce qui est fait, mais s'ils sont valables, il faut les injecter.
Si vous avez un souhait, peut-être jouer à l'endroit du ministre de la Santé, ce serait quoi par rapport à AstraZeneca, en considérant les risques que vous avez relevés pour les populations?
Écoutez, s'il s'agit juste des quelques cas d'embolie pulmonaire qu'il y a, il faut mettre sur pied une meilleure surveillance et dire aux malades comment se surveiller et puis continuer la vaccination. Moi, je pense que c'est ça le truc. Il faut surtout pas arrêter la vaccination. On va pas. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer, madame. C'est fou.
Merci beaucoup, docteur Patrick Pelou, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à vous, professeur Yap Boum, épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique. C'est le centre de recherche de l'ONG Médecins Sans Frontières à Yaoundé, au Cameroun. Merci au docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, spécialiste en santé publique et expert en vaccinologie pratique à Dakar. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.